Si vous tournez dans 1 Corinthiens 13, un passage bien connu, Paul nous invite à réfléchir et à nous préoccuper des choses essentielles, comme il est facile de se laisser distraire par des choses superficielles, des choses secondaires. Des fois, on peut être plein d'émoi, de soucis, d'agitation pour des choses, et quelques jours plus tard, on ne sait même plus de qu'est-ce qui nous agitait. On se rappelle plus de l'émotion que de la raison pour l'émotion. Et Paul, après avoir parlé essentiellement de... C'est un hymne à l'amour, ce chapitre 13. Il dit trois choses, il y a trois choses importantes, en fait. Et au verset 13, 1 Corinthiens 13, 13, il nous dit, il y a trois choses qui demeurent, trois choses qui restent, trois choses importantes, trois choses dont il faut se préoccuper. C'est la foi, l'espérance, l'amour. Et puis il ajoute, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. N'empêche, quand tout sera dit, tout sera fait, il restera ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Et toutes choses vont disparaître, sauf ces trois choses-là. Et j'aimerais justement qu'en cette saison de Noël, on réfléchisse à ce que Noël nous enseigne sur précisément la foi, l'espérance et l'amour. Et aujourd'hui, on va regarder ce qu'on pourrait appeler la foi de Noël. Une réflexion que j'avais déjà menée il y a plusieurs années. Mais ça fait un moment, et moi-même, ça me fait du bien de me rappeler de la façon dont Noël nous enseigne sur ces trois choses. On va se tourner dans l'évangile de Luc, l'évangile de Noël, un peu par excellence, où il y a beaucoup de détails qui nous sont donnés sur la naissance de Jésus-Christ. Et avant d'en parler et de lire, qu'est-ce que la foi dont Paul nous parle ? La meilleure définition de la foi dans la parole de Dieu, on la trouve probablement dans Hébreux 11. Là aussi, si vous voulez vous tourner dans Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. C'est juste avant Jacques. Hébreux 11, le grand passage qui célèbre la foi. Et il nous est dit, par l'auteur de cette lettre, certains pensent qu'il s'agit de Paul, d'autres pensent que c'est peut-être une autre personne de la même époque, peut-être Apollos ou d'autres. Et il nous est dit au verset 1 du chapitre 11, « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Puis il donne des exemples de foi. Et au verset 6, il nous déclare « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Puis là, le reste du chapitre, c'est un hymne à la foi, comme 1 Corinthiens 13 était un hymne à l'amour. C'est tout un tas d'exemples de grands ou de petits hommes qui ont été animés par une grande foi dans l'histoire de la Bible et qui nous racontent justement comment ils ont pu vaincre des obstacles insurmontables, comment ils ont pu accomplir des grandes choses inspirées par Dieu. C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un peu abstrait. Mais la foi, ce n'est pas, comme le disent certains cyniques, de faire semblant de croire à quelque chose qu'on sait pertinemment être absolument impossible. Ça, c'est une critique des athées qui nous disent « Votre foi, c'est bien beau, mais ça, c'est impossible, Dieu n'existe pas ». Ce n'est pas non plus ce que certains appellent la pensée positive, genre optimisme béat, comme Yves Montand, ce grand chanteur franco-italien, italo-français, chantait « Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas, toutes ces petites misères seront passagères, moi je ne m'en fais pas ». Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la méthode Coué, de répéter les choses qu'on veut voir arriver. Quand j'étais gosse, et je m'en souviens encore, c'était pourtant en Afrique, où il faisait au Moyen Congo, à Pointe-Noire, où il faisait le plus souvent très beau, très chaud. Mais avec ma petite sœur, on partageait la même chambre, et lorsque le lendemain, nos parents avaient prévu de sortir, de nous emmener quelque part, on voulait conjurer le mauvais sort de la mauvaise météo en disant... Justement, il va pas faire beau, demain il va pas faire beau, demain il va pas faire beau, demain il va pas faire beau. C'est une espèce de mantra négatif, de manque de foi, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas non plus un sentiment de vague espoir qu'on arrive à consolider, à manufacturer, à entretenir par des bonnes résolutions. J'ai des définitions plus intéressantes. Une de mes favorites, C'est lorsque vous êtes à Saint-Martin-de-Vésubie, près de la rivière, près du Boréon, et que vous vous dites, parce qu'il y a un torrent ici, il doit y avoir un océan quelque part. C'est quelque chose qui vous indique une vérité, même si, a priori, il n'y a pas grand-chose pour la soutenir. Et quelqu'un d'autre, un commentateur chrétien, a dit « La foi, ce n'est pas tant croire en dépit de l'évidence. » Donc, ce n'est pas une histoire de croyance malgré des évidences contraires, mais c'est obéir en dépit des circonstances et des conséquences. J'aime bien cet aspect volontaire, actif de la foi. Souvent, les gens vous disent « Toi, c'est bien, tu as la foi, moi, je ne l'ai pas. Tu as de la chance, j'aimerais bien l'avoir. » Comme si c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et c'est vrai que plus tôt on est exposé à la foi chrétienne, plus tôt on est orienté à recevoir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on remercie tous ceux qui s'occupent de nos enfants, ceux qui s'occupent des ados en ce moment. En fait, la parole nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. La foi, c'est de se rappeler qu'on nous a dit quelque chose et que cette chose est arrivée. Et c'est une espèce de familiarisation avec le caractère fidèle de Dieu qui fait qu'on a de plus en plus confiance en lui. Une autre définition qui se rapproche de ce texte de Hébreux 11, 1, c'est « La foi rend l'âme du croyant capable de traiter le futur comme si c'était le présent et l'invisible comme si c'était le visible ». Ça, c'est la foi. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je pourrais vous donner le mot en grec, mais ça ne nous aiderait pas beaucoup. Peut-être mieux, c'est d'autres façons de traduire ce mot qui se trouve dans l'évangile de Luc et dans hébreu. C'est l'assurance, c'est la ferme assurance, la confiance, la certitude, la réalisation, la substantialisation, ça ne parle pas beaucoup, le fondement. C'est quelque chose sur lequel on peut se reposer, l'assurance des choses qu'on espère. C'est pas comme un « j'espère peut-être gagner un jour au loto », mais il y a des choses dont je suis convaincu qu'elles vont venir, j'en suis sûr, et je les attends. Et puis, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est une preuve. C'est une certitude, c'est une conviction. Donc la foi, d'après cette définition, c'est une espérance fondée sur la parole de Dieu. Et c'est une conviction, une persuasion des choses qu'on ne voit pas, que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et en fait, la foi, on l'exerce beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Je suis jamais allé en Australie, mais je crois que l'Australie existe. Si ça se trouve, c'est un coup monté par les médias depuis des années pour nous faire croire que la Terre est ronde. J'ai jamais vérifié personnellement de l'espace que la Terre était ronde. Mais j'en suis persuadé, même si je ne les vois pas, j'ai la foi dans ce qu'on m'a raconté, peut-être à tort, bien souvent. Et la foi, elle est au monde spirituel ce que la vue est au monde physique. Supposons qu'un beau soir de clair de lune, il y a quelque temps, on a eu une super moon, là, une grande lune, parce qu'elle était plus rapproché que jamais de la Terre, et quand elle est basse sur l'horizon, elle paraît plus grande parce qu'on la rapporte inconsciemment aux choses qui entourent. Et j'ai vu cette lune formidable, fantastique, brillante, détaillée. J'ai pris des photos. J'aurais pu prendre une photo de la lumière, ça aurait fait le même effet sur le papier ou sur l'écran. Mais si je vous emmène dehors et je vous dis garde tes yeux fermés, vous allez être en présence d'une chose réelle, mais vous n'allez pas la voir. La lune est réelle que vous la voyez ou que vous ne la voyez pas. C'est la même chose avec la foi. Les choses spirituelles existent, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. Les incroyants disent souvent « c'est réel parce que vous y croyez ». Non, c'est pas ça du tout. C'est pas la foi qui cause l'existence des choses invisibles. La foi, elle nous permet simplement de les appréhender, de les percevoir. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il est dit donc au verset 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si vous pensez vous approcher de quelque chose, c'est mieux de savoir que cette chose, de penser que cette chose existe vraiment. Et aussi d'avoir cette idée que Dieu récompense ceux qui le recherchent en se laissant découvrir. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais vraiment fait une démarche pour connaître Jésus. Paul nous dit par ailleurs que c'est comme s'il y a un voile sur vos yeux. Mais si vous approchez de Jésus, le voile est déchiré. Dieu va vous récompenser en se révélant à vous. Mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. On peut penser qu'en fait, si je donne toutes mes ressources pour l'Église, pour Dieu, ça va l'impressionner, ça va lui plaire. Si je pars au fin fond du monde pour créer des écoles, des hôpitaux, pour aider les pauvres, aider les enfants, ça va lui plaire. Si c'est fait sans la foi, ça ne servira de rien. La foi, c'est la seule chose qui plaise à Dieu. Et la foi, elle est en question dans ce chapitre de Luc, auquel on revient, après cette petite parenthèse sur Hébreux 11 et des définitions de la foi. On va lire ensemble à partir du verset 5 du chapitre 1 de Luc, l'évangile de Luc. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât si longtemps dans le temple. Quand il sortit, ils ne pouvaient pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi » pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » On va s'arrêter là pour l'instant. Et donc le contexte, c'est un couple. C'est à l'époque d'Hérode, qui avait été désigné roi, qui n'était pas vraiment juif, qui était mi-juif et mi-idouméen, qui descendait de Édom, et qui... avait rebâti ou amélioré le temple qui avait été construit à Jérusalem. Si vous vous souvenez, Dieu avait, ou plutôt le peuple juif, avait commencé d'adorer et de, d'offrir un culte à Dieu dans le tabernacle. C'était quand Dieu faisait du camping. Et puis Dieu a mis sur le cœur de David, où David a commencé à penser que lui, il s'était construit un beau palais, et il y avait toujours Dieu qui faisait du camping, qui habitait en quelque sorte le tabernacle, cette structure qui se composait d'un parvis. Il était démontable pendant le voyage des Juifs de l'Égypte vers la terre promise. Ils plantaient le décor. Il y avait d'abord une enceinte qui délimitait l'extérieur du parvis. C'était une enceinte faite de toiles, une variété de peaux d'animaux et de mammifères marins. Et puis, à l'intérieur de ce parvis, il y avait des autels de sacrifice pour le gros bétail. Et puis, à l'intérieur, il y avait une plus petite tente qui était séparée en deux compartiments. Il y avait ce qu'on appelait le saint lieu. Et puis, il y avait le saint des saints où se trouvait la présence de Dieu. Sa gloire habitait le saint des saints. C'était un endroit tellement sacré que seul le grand prêtre pouvait y pénétrer, et encore, c'était seulement une fois par an, le jour du Yom Kippour, le jour des expiations, et que pour pouvoir entrer, il devait déjà offrir un animal en sacrifice. Et puis là, il entrait, il offrait un animal en sacrifice pour le peuple. Il venait prier pour le peuple et offrir un sacrifice. Et donc, ces trois parties, le Saint des Saints était donc précédé par le saint lieu. Et dans le saint lieu, il y avait, quand on entrait, d'après ce qu'on m'a dit, ce qui est décrit, il y avait le chandelier à sept branches. Devant, il y avait un petit autel qui était la moitié de cette table où on pose l'ordinateur qui contrôle la projection des champs. Quelque chose de très petit, 50 cm de carré, un petit carré sur 50 cm de haut. C'était l'autel des parfums. Il était fait d'acacia, recouvert d'or, et c'était l'autel d'or sur lequel on brûlait les parfums. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Apocalypse 8:4. L'encens, les parfums sont comparés à nos prières. C'est une représentation des prières. Est-ce que vous saviez que vous sentez bon lorsque vous priez? Peut-être pas pour vos voisins, peut-être pas, mais pour Dieu, ça sent bon. C'est un parfum de bonne odeur. Et à droite, il y avait la table des pains de proposition, un petit meuble aussi sur laquelle il y avait 12 pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et ce lieu, ce saint lieu, chaque jour, il y avait des prêtres qui rentraient et qui célébraient ou qui servaient, s'occupaient de chandeliers, qui renouvelaient les pains de proposition, qui faisaient brûler de l'encens. Ça, c'était dans le tabernacle. Et puis, lorsque David a eu l'idée de construire un temple en dur, Dieu lui a dit que ce ne serait pas lui qui le ferait, parce qu'il avait trop de sang sur les mains, mais que ce serait son fils Salomon qui le réaliserait. Et Salomon, on l'a étudié en son temps, a construit ce temple magnifique en utilisant les meilleurs ouvriers, en ayant... Son père avait déjà commencé à rassembler des matériaux de construction, et c'était le merveilleux temple de Salomon. Ce temple, le premier temple, a été détruit par les Babyloniens, et puis il a fallu attendre qu'Esdras retourne d'exil pour reconstruire le temple. Donc le deuxième temple, c'est le temple d'Esdras. Il a été complété par le grand architecte, par le grand constructeur plutôt, qui était le roi Hérode. Le roi Hérode, Hérode le Grand, c'était avant tout un bâtisseur, quelqu'un qui a construit des tas de belles structures, la forteresse de Masada, des choses qu'on peut encore visiter aujourd'hui en partie, ou ce qu'il en reste. Et ce temple, lui, il a été détruit, il était splendide. C'était le temple dont Jésus disait qu'il allait être détruit, mais qu'en 3 jours, il le reconstruirait. Ce temple a été détruit en l'an 70 par les armées romaines, menées par le Titus, qui allait devenir empereur. Et donc, on est dans ce contexte, c'est le temple d'Hérode, et il y avait ce prêtre, Zacharie. À l'époque, on pense qu'il y avait des descendants de Aaron, d'où étaient issues les tribus d'où étaient issus les prêtres. Lorsqu'on étudie dans le Lévitique et dans les autres livres de l'Ancien Testament, on voit les différentes familles, on voit les différentes tâches que certaines de ces familles avaient concernant le tabernacle dans le désert. Certaines portaient, d'autres faisaient des sacrifices, etc. On ne sait pas l'objet. Mais cet homme, lui, il était l'un des 10 000 ou 20 000 descendants de prêtres. Donc il y avait tout ce monde qui était des prêtres prêts à exercer leur office autour dans le temple. Et c'est avec le roi David que David avait classé les différentes tribus. Il avait fait des classes de prêtres. Et là, c'était... Donc il y avait 24 classes de 1000 hommes à peu près. Ça, on trouve ça, si vous voulez le noter, dans 1 Chronique 24, 3 à 9. Mais à la base, il y avait plus de prêtres que de travail. Il y avait... Dans la vie d'un prêtre, c'était très rare qu'on soit appelé à entrer dans le Saint-Lieu et d'y officier. Et c'est précisément ce qui se passe pour Zacharie. Il est appelé à... C'est son tour. Il a été sa classe, la classe d'Abia, doit exercer le culte pour la date donnée. Et ça, c'était vraiment un grand honneur. Ça ne leur arrivait pratiquement qu'une fois dans leur vie, si jamais ça leur arrivait. Et on peut imaginer son émotion, sa joie, son angoisse. Il devait être là à demander à ceux qui l'avaient déjà fait, comment ça se passe, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a, c'est vraiment comme on le dit, il y a le chandelier, il y a l'autel des parfums, et c'est moi qui suis appelé à le faire. Il y avait lorsqu'ils entraient dans le Saint-Lieu, ils étaient 3 prêtres. 2 s'occupaient de choses un peu subalternes. L'un nettoyait l'autel des parfums pour le nettoyer. Avant, il avait nettoyé l'autel des sacrifices, il avait préparé le feu sur l'autel. Le deuxième, lui, il tuait l'animal, il l'offrait en sacrifice. Il aspersait de sang l'autel des sacrifices. Et puis... Le troisième, c'était celui qui avait la tâche la plus prestigieuse, la plus enviée, c'était d'entrer dans le Saint-Lieu pour amener l'encens et d'offrir cet encens sur l'autel des parfums, sur couvert d'or. Il entrait dans une main, il avait l'encensoir, une coupelle avec des charbons ardents, et de l'autre, il avait des parfums. Et c'était vraiment... un grand honneur, un très grand privilège. Il y avait un service le matin, un service le soir. Les deux premiers faisaient le service le matin, ils le refaisaient le soir. Par contre, celui qui était entré pour brûler les parfums, il le faisait qu'une fois. Ils avaient fait un peu de division du travail pour pouvoir donner ce privilège à un plus grand nombre. Et quand il faisait brûler l'encens, il y avait une ventilation dans le saint lieu qui permettait à la fumée de s'échapper. Donc la foule voyait que il était en train de brûler les parfums. Et c'est ce qui est écrit, toute la multitude, verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc il est là, il a le cœur qui bat très fort, il n'a sans doute pas dormi les jours qui ont précédé. Il a demandé à tout le monde qu'il avait déjà fait comment c'était, un peu comme quand vous passez votre permis de conduire et que vous demandez à vos amis qui l'ont déjà eu, qu'est-ce qu'on t'a demandé, tu es allé dans quel quartier, qu'est-ce qu'on t'a fait faire, il t'a fait faire un créneau en arrière ou en avant, de l'autre côté de la route ou pas. Et puis, il rentre et il voit un ange. Un ange de l'Éternel. Dans la Bible, il est souvent mention dans l'Ancien Testament de l'ange de l'Éternel. Et lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel avec un grand A, c'est souvent une référence de Christ préincarné. Christ existe de toute éternité, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et dans la Bible, il y a des rencontres d'hommes avec l'ange de l'Éternel. Et on pense que ce sont des pré-incarnations, c'est Jésus avant son incarnation, avant Noël. Mais il était déjà là, il pouvait intervenir. Là, c'est un ange de l'Éternel, donc ce n'est pas Jésus. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'en fait, les prophéties disaient que le Messie allait arriver, mais qu'il allait être précédé par un annonciateur. Quelqu'un qui allait annoncer sa venue. Et là, on est depuis 400 ans, il n'y a pas eu de communication directe depuis les derniers petits prophètes jusqu'à Matthieu et aux évangiles de Luc, il n'y a pas eu de contact direct. C'est un peu comme si l'humanité est passée derrière la Lune et Houston ne communique plus. Et là, on va voir que les choses se mettent en place pour que la communication revienne. Et plus claire qu'elle n'a jamais été. Voir un ange, c'était quelque chose d'effrayant. Souvent, c'était un ange de jugement. Et c'était généralement quelque chose qu'on devait redouter. C'est ce qui est dit, il fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Peut-être il se dit, mais on ne m'a jamais dit ça, mes copains ne m'ont pas parlé d'un ange qui allait se trouver à droite de l'autel des parfums. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une punition personnelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas raconter? Il est frappé, mais l'ange le rassure. Ta prière a été exaucée. On a vu que ce couple était un couple remarquable, Zacharie et Élisabeth. Ils étaient justes devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, qu'ils n'avaient pas de péché. Ils étaient justes, ça veut dire qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs et qu'ils procédaient aux sacrifices nécessaires dans l'ancienne alliance pour couvrir leurs péchés. Mais ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. J'aimerais bien qu'on puisse dire ça de moi aujourd'hui. Donc c'était un couple remarquable qu'on aurait aimé rencontrer, on aurait aimé passer du temps avec eux, mais il y avait un problème, elle était stérile, ils n'avaient pas d'enfant. Aujourd'hui, c'est quelque chose de toujours très, très douloureux lorsque un couple veut avoir des enfants et qui n'arrive pas à avoir justement d'enfants, c'est vécu comme une souffrance. La, La science médicale peut aider dans certains cas. Quelquefois, l'adoption peut être une façon de combler ce manque, une très belle façon de combler ce manque d'ailleurs. Et à l'époque, c'était encore pire parce que non seulement il y avait le manque de la présence d'un enfant dans le foyer, d'un ou plusieurs enfants, mais il y avait un stigma. On pensait que si le couple n'avait pas d'enfant, c'est qu'ils avaient un problème devant Dieu. C'était vécu comme une malédiction, comme une punition de Dieu. Et de plus, ils devaient se rendre à l'évidence, ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Ça veut dire qu'ils avaient passé l'âge de la procréation humaine naturelle. On peut penser qu'ils avaient prié longtemps pour avoir un enfant, depuis qu'ils étaient mariés, même peut-être avant cela. Mais Dieu n'avait pas répondu. Ils avaient continué de prier et Dieu n'avait toujours pas répondu. Et probablement qu'au bout d'un moment, ils avaient cessé de prier. Ce n'est pas dans le texte, mais je pense qu'on est tous comme ça. Quand on prie pour demander des choses à Dieu, quand Dieu nous met quelque chose sur le cœur, il est dit que c'est lui qui nous donne les désirs de nos cœurs si nous le suivons. Et des fois, on pense que c'est lui qui nous met un désir sur le cœur. Ça peut être un désir légitime, digne d'éloge, une bonne chose. On prie pour que ça arrive et ça n'arrive pas tout de suite. Alors, on continue de prier. Et puis on dit peut-être qu'il faut que je me purifie. Il faut peut-être qu'il y a des choses dans ma vie et c'est une bonne chose. Mais au bout d'un moment, on se dit, ben non, rien n'y fait. Et on cesse de prier. Et là, on revient à ce qu'on a vu dans Hébreux. C'est parce qu'on commence à manquer de foi. On n'a plus l'assurance des choses qu'on espère. Et je suis sûr que tous, vous pouvez penser à des choses pour lesquelles vous avez prié et peut-être des choses pour lesquelles vous avez cessé de prier. Et le fait d'avoir cessé de prier, ça montre un manque de foi. Et c'est dangereux parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors on va peut-être devenir un peu plus personnel, mais peut-être que vous êtes encore et toujours célibataire et vous vous dites, j'ai hâte de trouver un compagnon pour ma vie, un mari, une femme, devant Dieu, on se marierait, ce serait merveilleux, ce serait le bonheur pour toujours. On vivrait heureux, on aurait beaucoup d'enfants. Et puis les choses n'arrivent pas. Il y a eu des espoirs, peut-être même des réalisations partielles, et puis c'est tombé par terre, et vous n'y croyez plus. Dieu, aujourd'hui, en cette période de Noël, veut vous rassurer que vous pouvez continuer à prier pour ça. Vous pouvez peut-être prier pour être libéré d'une maladie. Maladie qui vous a déstabilisé, qui vous a explosé, entre guillemets. Dieu peut vous guérir, Dieu peut le faire. Ça peut être une formation que vous vouliez faire, que vous n'avez pas pu faire. Il n'est jamais trop tard. Hier, je crois qu'il y avait une question pour les femmes, pour briser la glace. C'était de citer une chose que vous aimeriez savoir faire. Là, on a un piano et à chaque fois que je le branche, je commence à essayer de jouer un peu et je me dis, ah, si seulement j'avais continué de prendre des leçons. Vers 40 ans, j'avais commencé à prendre quelques leçons pendant 3 mois et je commençais à pouvoir jouer des petites choses et puis j'ai pas le temps, j'ai laissé tomber. Et je me dis, bah, c'est trop tard. C'est pas trop tard, c'est trop tard probablement pour être un virtuose, mais c'est pas trop tard pour pouvoir avoir du plaisir à pianoter. Et dans beaucoup de situations comme ça, on arrête les choses parce qu'on se dit j'y arriverai pas, ou Dieu ne va pas le faire, mais Dieu veut que vous continuiez, surtout pour les choses importantes, hein, savoir parler une langue ou jouer un instrument de musique, c'est bien, mais être guéri d'une maladie, avoir des enfants, si on n'a pas encore d'enfants, se marier, ces choses-là, Dieu veut que vous continuiez de prier. Quand on était nouveau dans cette église, avec les anciens, on priait régulièrement pour avoir la possibilité de mettre des messages sur les radios FM dans la région. À une époque, il y a une station de radio qui a été à vendre. Finalement, les catholiques ont repris la station. Mais on a cessé de prier pour ça. Et pourtant, moi, je sais qu'aux États-Unis, c'est en tournant la radio sur des programmes chrétiens que j'ai commencé à être interpellé par la foi. J'avais une foi d'enfant, j'avais été élevé dans l'église catholique, mais j'avais laissé tomber ça sous l'influence de Voltaire, Rousseau et de mes professeurs marxistes. Est-ce que vous avez cessé de prier pour certaines choses ? Dieu veut que vous continuiez de prier. Et il lui dit, ta prière a été exaucée. On pense que quand il est rentré dans le tabernacle, ou dans le temple, dans le saint lieu, il était très ému, il avait probablement répété une prière, il allait prier pour le bien-être spirituel de la nation, pour sa protection physique, pour sa prospérité. Et il n'était pas du genre à prier pour des choses égoïstes comme avoir un enfant. Mais Dieu, par l'intermédiaire de cet ange qui se trouve être l'ange Gabriel, il lui dit, ta prière a été exaucée. Et il lui annonce que sa femme et lui vont avoir un fils et qu'ils doivent l'appeler Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Une merveilleuse prophétie annoncée par un ange. Tu vas avoir un enfant et cet enfant va restaurer une relation spirituelle entre Israël et Dieu. Il va être celui qui va précéder le Messie qui va venir mourir pour les péchés, non seulement d'Israël, mais de toute l'humanité. Tu vas être rempli de joie et d'allégresse. Et beaucoup vont se réjouir de sa naissance. Parce que les prophéties étant telles, vous vous souvenez, on en a parlé récemment, qu'elles doivent se réaliser à la lettre. S'il n'y a pas d'annonciateur du Messie, il n'y a pas de Messie. S'il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de pardon pour les péchés. S'il n'y a pas de pardon pour les péchés, il y a une éternité pour toujours loin de Dieu, en enfer. C'est monumental. Et Zacharie, il a une réaction que nous avons lorsque nous entendons une promesse de Dieu. C'est bien beau ta promesse, mais comment que ça va se faire? C'est pas possible, je t'ai dit, on est âgé, je suis vieux, ma femme est d'un âge avancé. Il dit pas ma femme est vieille, c'est pas correct de dire ça. Votre femme est d'un âge avancé. Et il lui dit, Tu es Zacharie, moi je suis Gabriel, et je viens de devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler, t'annoncer cette bonne nouvelle. Et puisque tu doutes, puisque tu ne montres pas de foi, alors que j'ai pris la peine de me déplacer pour venir te parler, moi l'ange Gabriel, le seul ange nommé dans la Bible avec l'ange Michel, un archange, un chef des anges, un ange très puissant, je viens te dire que tu vas avoir un enfant, et toi, tout ce que tu me dis, c'est que ce n'est pas possible. C'est fou comment on est habitué à trouver des raisons pour lesquelles les promesses de Dieu ne peuvent pas se réaliser dans nos vies. Dieu vous appelle peut-être à le servir à plein temps, mais vous dites, oh, mais maintenant je suis trop vieux, ou je suis trop jeune, ou je suis trop beau, ou je suis trop moche. Peu importe, on est toujours prêt. Et là, il est dit, pour ta peine, tu vas être muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour de la naissance. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu, au moment voulu. Encore une fois, sans foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et là, ça va plus loin. Sans la foi, on déplaît à Dieu. Et Dieu nous reprend. Et là, il le reprend de façon un peu comique. Si c'est tout ce que tu as à dire, que tu à me donner des raisons pour lesquelles les choses que Dieu te promet ne vont pas se passer, je préfère que tu fermes ta bouche et tu ne vas plus pouvoir parler. Dehors, les gens attendaient, ils s'étonnaient que Zacharie prenne autant de temps. Et puis quand il sort finalement, il ne pouvait pas leur parler. Et là, ils se sont dit, il s'est passé quelque chose dans le temple. On ne sait pas comment il regardait, on peut vous laisser imaginer. Mais il doit faire comme ce jeu de société où on exprime par des signes, des mots, des concepts. Il leur explique ce qui s'est passé. On ne sait pas, je vous laisse imaginer. Et puis, lorsqu'il a eu terminé son service, il rentre chez lui. Et puis, quelque temps après, sa femme Élisabeth, qui était d'un âge avancé, tombe enceinte. Dieu est le maître de la nature, il est le maître de l'homme et de la femme, de nos corps. Il peut tout faire. Et puis, on va sauter. On va voir verset 57, Luc 1, 57. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, il vint pour le circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Jean, qui veut dire Dieu, Jéhovah est gracieux, il donne la grâce, il donne avec grâce. Jean, c'est un très beau prénom. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Là, c'est un peu un clin d'œil, parce qu'on fait ça nous-mêmes. Si quelqu'un ne parle pas, on pense qu'il est sourd. Donc ils lui ont fait des signes pour lui dire qu'il est... Alors peut-être qu'il était tombé sourd-muet, mais l'ange avait promis simplement d'être muet. Toujours est-il qu'il leur dit, la mère ne veut pas l'appeler Zacharie pour honorer la famille et le nom du père, Zacharie Junior, mais elle dit non, il va être appelé Jean, elle avait reçu cette conviction. Et ils disent, bon, on va demander au papa, donc ils lui font des signes, alors qu'il lui dit, il peut pas encore parlé, alors il utilise un iPad. Zacharie demanda une tablette et il écrivit son nom et Jean. Donc il l'écrit sur une petite tablette, c'était pas électronique, son nom et Jean. C'est même pas on va décider, non, c'est Jean. Tous furent dans l'étonnement et là, immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient « Que sera-ce donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Verset 67, « Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. » C'est des fois ce qu'on appelle dans l'Église catholique, dans les vieux missels, le Benedictus. Béni soit le Seigneur, la bénédiction, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le but, c'était qu'il aide les hommes à connaître le salut par le pardon de leurs péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. La foi de Noël, la foi qui a manqué à Zacharie et à Élisabeth, mais qui, avec l'aide de quelques preuves, avec la punition, l'intervention d'un ange, un jugement, et l'accomplissement de la promesse, la foi est revenue. La foi qui voit n'est plus la foi. La foi, c'est quand on croit sans voir. À remarquer la façon dont Zacharie a réagi après le miracle de l'accomplissement, c'est la joie et c'est le témoignage. Est-ce que vous, lorsque vous priez pour quelque chose pendant longtemps, vous avez peut-être abandonné et que ça, finalement ça se réalise, est-ce que vous êtes prêt à en témoigner? Ou est-ce que vous laissez croire aux autres qu'en fait c'est normal que vous soyez guéri avec les progrès de la pharmacie, les bons médicaments qu'on a maintenant, tôt ou tard on se relève de telle ou telle maladie, tôt ou tard on peut forcer la naissance d'un enfant, ou est-ce que vous rendez la gloire à qui elle revient, à Dieu qui vous aime? Encore une fois, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Seigneur, je te remets chacun de nous ce matin. Nous avons tous des sujets dans nos cœurs, des sujets de prière, des désirs, des peurs, des espérances, des situations que nous voudrions voir changer, des difficultés dans nos couples, dans nos mariages, des difficultés avec nos enfants. Seigneur, tu veux que nous te fassions confiance. Tu veux que nous en remettions à toi, Seigneur. Merci pour cet exemple de ce couple qui était digne d'éloge en beaucoup de points, mais qui, devant une promesse, n'avais pas cru bon de continuer à croire, Seigneur. Je te demande de nous aider toujours à te faire confiance, à avoir cette foi, à cette assurance des choses qu'on espère, qui fasse que on ne mette jamais en cause tes promesses, Seigneur. Je veux te remettre notre ville pour que l'Évangile y soit répandu, Seigneur. Donne-nous d'avoir confiance que c'est ta volonté aussi, Seigneur. Seigneur, on veut que ce pays soit rempli de ta parole. Donne-nous la confiance que ça va arriver. Tu aimes les hommes, tu aimes les Français aussi, Seigneur, et tu veux provoquer un réveil, c'est ma conviction. Aide-nous à être persuadés des choses qu'on ne voit pas encore, Seigneur. Sois glorifié dans cette période de Noël. Aide-nous à nous en remettre à toi, à te chercher. Aide-nous à passer du temps avec toi, dans la parole, dans la prière, même dans les chants de Noël. Merci pour la joie de Noël, Seigneur. Merci pour le merveilleux salut que tu étais en train de mettre en place avec ce miracle de ce Jean-Baptiste qui allait naître dans la famille d'Élisabeth et Zacharie. Sois glorifié, Seigneur. Prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.